France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite ce matin de notre série sur les philosophes stoïciens, le stoïcisme, un idéal de maîtrise, point d'interrogation. Aujourd'hui, Marc Aurèle, nous et l'ordre du monde. Marc Aurèle est devenu empereur de Rome en l'an 161 de notre ère, à l'âge de 40 ans. Et il a régné jusqu'à sa mort en 180. Il fait partie de ce qu'on appelle la dynastie des Antonins, jugée plus tard, notamment par Machiavel, avoir donné 5 bons empereurs à Rome. Juste avant Marc Aurèle, c'est Antonin, dit le pieux, qui a régné. Et nous verrons que Marc Aurèle le tient pour un modèle. Ces empereurs-là ont le plus souvent choisi leur successeur, eux-mêmes. Ainsi, Marc Aurèle lui-même a été choisi par l'empereur Adrien. Cependant, Marc Aurèle lui-même est revenu à la succession filiale, destinant au trône son fils Commode. Marc Aurèle était philosophe, lecteur notamment d'Épictète. Il a rédigé pendant son règne des pensées pour soi-même, pour moi-même, divisé en 12 livres. C'est un nouveau chapitre important, ajouté à la ligne stoïcienne en philosophie. Vous verrez que nos invités d'aujourd'hui soulignent cependant que le titre ne doit pas induire en erreur. Ce n'est guère une pensée du moi, anticipant la notion moderne de moi. Ce n'est pas cela que propose Marc Aurèle. Il explore les mouvements de l'âme pour mieux comprendre et mieux faire comprendre l'impératif pour l'individu de s'insérer dans l'ordre du monde. Même pour un puissant empereur, la maîtrise des affects vise cette intégration au cosmos. C'est bien en cela que Marc Aurèle est stoïcien, et vous aurez remarqué que le titre choisi pour cette émission pose précisément un « nous » plutôt qu'un ambigu « moi-même ». Marc Aurèle, nous et l'ordre du monde. Bonjour Frédéric Ildefonse.
Bonjour Géraldine.
Directrice de recherche au CNRS, éminente spécialiste de la pensée stoïcienne. Vous étiez déjà avec nous pour ouvrir cette série lundi et vous revenez pour la clore aujourd'hui par cette émission consacrée à Marc Aurèle. Bonjour Alain Petit.
Bonjour Géraldine.
Chercheur attaché à l'université de Clermont-Auvergne, vous êtes spécialiste de la philosophie antique. Je ne me suis pas trompée dans votre titre, c'est ça ?
Non.
Vous êtes spécialiste de la philosophie antique. D'ailleurs, vous êtes déjà venu dans cette émission pour nous parler de l'épicurisme. Ce matin, nous allons vous entendre sur Marc Aurèle, stoïcien, et notamment sur l'enjeu du présent. C'est un des points que nous évoquerons, qui est une chose très importante pour Marc Aurèle, d'autant Alain Petit que vous préparez actuellement un ouvrage qui devrait s'intituler « L'éternel retour, histoire d'un problème ». Je vous propose de commencer tout de suite cette émission sur Marc Aurèle par la pensée 34 du livre 8 de ses Pensées pour moi-même. Marc Aurèle y insiste sur le fait qu'aucun organe, même s'il peut être coupé d'un corps, n'a de vie propre. Sa vie passe par la finalité qui est de réintégrer le corps.
As-tu jamais vu une main ou un pied coupé, une tête tranchée gisant loin du reste du corps ? Voilà ce que se fait à lui-même, autant que cela dépend de lui, celui qui ne consent pas à ce qui arrive et se met à l'écart, ou qui agit à l'encontre du bien commun. Tu t'es en quelque sorte arraché à l'union naturelle, car tu as cru comme partie d'un tout, mais à présent tu t'en es coupé toi-même. Mais voici qui est admirable. Il t'est possible de te réunir de nouveau au tout. À aucune autre partie, le Dieu n'a accordé de pouvoir à nouveau rejoindre l'unité après en avoir été séparé et retranché. Mais vois bien la bonté dont il a honoré l'homme. Il a fait qu'il dépende de lui d'abord de ne pas se détacher du tout, et ensuite, s'il s'en est détaché, d'y revenir, de faire corps avec lui et de reprendre sa place de parti.
Frédéric Ildefonse, le problème est en fait un peu plus complexe que ce que j'ai annoncé avant la lecture. C'est d'ailleurs assez étrange. Un organe peut se couper du corps, mais il lui faut comprendre, alors je ne sais de qui il parle exactement, que pour continuer à vivre dans une vraie vie, ou pour continuer à être dans une vertu digne, il lui faut revenir au corps. Il y a donc les deux mouvements qui sont possibles pour Marc Aurèle. Qu'un individu se détache un peu, un certain temps, du tout, Frédéric Ilefonse, mais il lui faut comprendre qu'il doit revenir à l'intégration au tout.
Oui, c'est-à-dire que vraiment le texte est très saisissant. D'ailleurs, on pense au combat et aux guerres que Marc Aurèle a connues, et on peut se dire que probablement il a vu des mains et des pieds coupés et des têtes tranchées, et que voilà. Ensuite, il y a en effet, comme vous le dites, ce double mouvement. C'est-à-dire que c'est bien dit à la fin du texte. Il dépend de chacun de nous de ne pas se détacher du tout. Et là, on retrouve un thème qui est chez Épictète aussi, où on trouve une exclamation comme si nous étions indépendants. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas indépendants. Mais, comment dire, parfois, nous le faisons. Ce qui est formidable dans ce texte, je trouve, c'est en effet la chute. C'est-à-dire la générosité que Marc Aurèle souligne sur le fait que il nous est donné à nous de ne pas nous en détacher, de ne pas nous détacher du tout. Mmh. Et c'est la position éthique. Mais il nous est également donné, si nous nous sommes détachés, de pouvoir y revenir. Et ça, c'est extraordinaire parce que, comment dire, on pourrait se dire, bah, une fois que vous êtes détaché, c'est fini.
Et qu'advient-il à ceux qui resteraient détachés?
Bah, ceux qui restent détachés, ils sont pas dans une position éthique bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont dans l'erreur et ils sont coupés d'eux-mêmes. Et il y a d'autres pensées que on peut rappeler. C'est-à-dire que ce sont des gens qui mutilent l'intégralité du tout. C'est-à-dire qu'en fait, leur position est extrêmement agressive à l'égard de la totalité. Et Marc Aurèle les compare à des abcès du monde.
Mais eux, vont-ils bien ?
Ben, je ne pense pas. C'est-à-dire que vraiment, je ne pense pas. Alors, comment dire, l'idée, c'est que on ne peut pas aller bien si on n'est pas correctement intégré dans le tout. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur un point que vous avez abordé hier.
Dans l'émission sur Épictète.
Exactement. C'est-à-dire, y a-t-il soumission ou n'y a-t-il pas soumission?
Oui.
Moi, je pense dramatiquement qu'il n'y a pas soumission, que c'est très important. De même qu'il faut extraire le stoïcisme de son vêtement d'austérité, détaché de toute considération logique, physique, cosmologique. De même, il faut arrêter de penser que le stoïcisme, c'est quelqu'un qui plie les chines et qui se soumet. C'est tout le contraire. Mmh. C'est-à-dire, c'est que l'affaire, c'est que de toute façon, il y a un ordre du monde sur lequel, enfin, comment dire, qui règne indépendamment. Enfin, ce n'est pas nous qui dirigeons le monde. Nous, ce que nous pouvons y faire, c'est nous y intégrer de manière dynamique et prendre la part qui nous a été assignée et, comment dire, l'exécuter de la manière la plus positive, la plus dynamique, la plus active possible. Donc c'est tout sauf se soumettre. Oui. Et même il y a des textes où ils disent que de toute façon c'est sot de résister. C'est sot de résister parce que de toute façon, l'ordre du monde, ce n'est pas nous qui les dictons.
Tout en disant aussi, nous l'avons vu hier en fin d'émission, que parfois il faut résister à certaines choses.
Oui.
Par exemple, à une demande de Néron,
oui,
de l'empereur qui serait indu. Donc la pro-aéressis, la faculté de choisir, de nous diriger, pour le coup, peut de temps en temps être tout le contraire d'une soumission même humaine.
Oui, bien sûr. Mais là, c'est pas l'ordre du monde, en tout cas.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, moi aussi, je reconnais que plus la série avance, mieux je comprends, mais j'espère encore que je comprends mal, parce que c'est ça qui me permet de poser des questions qui sont l'occasion souvent de réponses très éclairantes de votre part. Alors Alain Petit, c'est vrai qu'il reste un paradoxe. Nous ne dirigeons pas l'ordre du monde, vient de rappeler Frédéric Ildefonse à propos du stoïcisme et de Marc Aurèle, mais nous nous dirigeons nous-mêmes. J'aimerais vous entendre avec vos mots expliquer ce problème.
Nous nous dirigeons dans la stricte mesure où nous nous ajustons à l'ordre du monde. Nous ne sommes pas dirigeants de nous-mêmes, comme si nous étions un esquif ou un bateau sans barreur. Il peut y avoir une façon de se diriger en étant, comme le disait Frédéric à l'instant, dans l'erreur, en étant un insensé. Dans ce cas-là, d'une certaine manière, on n'est plus le conducteur de sa vie. On est le conducteur de sa vie que si on a une représentation rationnelle à long terme de sa vie, ce qui veut dire que sa vie, c'est un système, et qu'il faut avoir une sorte de longue portée, et en outre, il faut ne pas contrecarrer l'ordre du monde pour se diriger soi-même. Sinon, c'est comme un bateau qui va contre un récif.
Évidemment, le petit problème là, c'est qu'il y a une certaine liberté intérieure tout de même, pour le stoïcien, mais en aucun cas une liberté d'invention, ni de révolte contre un certain ordre du monde. C'est pas une... Ça, c'est très moderne, l'idée que la liberté individuelle, elle peut changer les choses, elle peut changer le monde. Et cette idée est profondément non-stoïcienne.
C'est vrai. C'est-à-dire, le concept de choix est lui-même équivoque. Parce que vous évoquez un concept moderne de choix qui serait, en un sens, typiquement sartrien, puisque c'est à Sartre qu'on doit sans doute attribuer la version la plus radicale d'un choix qui n'a pas à se soucier d'un ordre quelconque du monde, parce qu'il n'y en a pas. Bon, donc un choix sans monde, un choix cosmique, si je le dis comme ça, ça serait du Sartre, il serait pas le seul, mais enfin, il est exemplaire. Le choix stoïcien ne porte pas sur l'ordre du monde. Là, on retrouve plutôt Descartes, Descartes disait lui-même qu'on ne modifiait pas l'ordre du monde, que la liberté ne consistait pas en cela.
Alors, cela dit, nous avons déjà vu dans cette série qu'il y a un certain débat antique entre stoïcisme et épicurisme, et sans faire appel au moderne, ce que nous venons de faire juste quelques instants, nous pourrions dire que dans l'épicurisme, il y a un monde un peu moins ordonné, où il y a plus de hasard. Donc déjà dans l'Antiquité, peut-être y avait-il une force de résistance, tout en étant dans le dialogue, au stoïcisme. Alors justement, dans la pensée, dans le livre 5 des pensées de Marc Aurèle, il y a un passage très précis sur l'ordre du monde qui va nous permettre de poser ce problème, notamment par rapport aux épicuriens.
Pareil à cette formule « Esculape ordonne à un tel l'équitation, ou les bains froids, ou la marche pieds nus », est la suivante « La nature de l'univers ordonne à un tel une maladie, une mutilation, une perte d'organes, ou quelque chose de semblable ». Dans la première, « il ordonne » veut dire « il assigne à un tel un remède qui correspond à sa santé ». Dans la seconde aussi, ce qui arrive à un homme lui est en quelque sorte assigné comme correspondant au destin. Nous disons « ces événements lui arrivent », au sens où les ouvriers disent que des pierres carrées s'encadrent dans des murs ou dans des pyramides, en s'adaptant les unes aux autres grâce à telle manière de les grouper. Car en somme, il n'y a qu'un seul arrangement. Et de même que de la somme de tous les corps se fait le monde, qui est tel corps, de même de la somme de toutes les causes se fait le destin, qui est telle cause.
Lecture par Nicolas Berger, notre réalisateur, de ce passage de Marc Aurèle. Alain Petit, chez les épicuriens, il y a des atomes qui bougent. S'ils bougent, c'est parce qu'il y a quand même un peu de vide. Et puis, parfois, il dévie. Ça s'appelle le clinamen. Ça permet aussi, à nous qui sommes constitués d'atomes, de changer de comportement, de choisir, justement. Et cette possibilité de changement n'existe pas, donc, dans le stoïcisme, qui ne voit pas du tout le monde comme cela, mais qui le voit très ordonné. Y a-t-il du désordre possible, du changement, tout simplement?
C'est-à-dire, les stoïciens ont toujours refusé cette idée de déclinaison, propre aux épicuriens, parce que c'était pour eux quelque chose, ça introduisait un événement sans cause. Et ça rendait l'univers irrationnel dans son ensemble. Donc ils ne pouvaient pas concevoir que la liberté qu'ils acceptaient fût une liberté épicurienne, c'est-à-dire une déviation spontanée des atomes eux-mêmes. Ce qui veut dire que dans l'épicurisme, l'ordre ne survient qu'après coup. Il peut y avoir un ordre. La nature, par exemple, la nature du monde terrestre est une nature ordonnée, mais seulement en tenant compte de la possibilité que les atomes eux-mêmes dévient. Mmh. Donc, ultimement, aucun monde n'est ordonné comme un monde stoïcien. Ce qui veut dire que la liberté épicurienne, c'est une liberté de dévier, en fait. C'est une déviance.
Voilà.
C'est plus une déviance qu'une résistance.
Oui.
J'ai toujours été surpris. Je me rappelle, j'avais essayé de creuser ce concept de liberté épicurienne, parce que c'est pas, je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir un choix s'il y a spontanéité et, je veux dire, quelque chose de fortuit? Est-ce qu'il peut y avoir un choix fortuit? Les stoïciens répliquaient, ben non, votre choix n'est pas un choix parce qu'il n'est pas rationnel. C'est deux conceptions.
C'est du hasard, et ça c'est insupportable.
C'est-à-dire, à la limite, si vous voulez, dans le hasard, vous ne choisissez pas. C'est ce que rétorquent les stoïciens.
Bon, en même temps, on s'améliore, notamment avec ces deux types de pensées, nous pouvons progresser. C'est bien un grand mot, ça, des stoïciens également. Ce qui prouve bien que nous changeons, que nous dévions, si j'ose dire, sens du terme.
Est-ce que le progrès stoïcien, qui en effet est attesté par exemple par Sénèque, pas seulement aussi par Épictète, et puis présupposé par Marc Aurèle lui-même, est-ce que c'est un changement au sens d'un changement fortuit, ou est-ce que c'est plutôt une façon de s'adapter toujours plus à l'endroit du monde?
Voilà, c'est ça, je crois, la réponse qui fait beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Ildefonse? Parce que c'est vrai que toutes les pensées, et là c'est vrai aussi chez les modernes, même si c'est plus rare, en tout cas chez les anciens, toutes les pensées de l'ordre du monde posent le problème du mouvement et de l'amélioration de nous-mêmes, de nos changements personnels, de nos choix. Cela ne produit pas du vrai désordre, ou au contraire, cela renforce-t-il l'ordre, notamment quand nous devenons plus sages? Comment ça marche?
C'est vrai que vous mettez le doigt sur la dimension normative du stoïcisme, mmh, et sur le fait d'aller vers le meilleur. Et bon, je voudrais dire des choses sur le texte.
Je vous en prie.
Parce qu'il est vrai. Oui, mais en même temps, je voudrais vous répondre. Donc, je suis un petit peu scindée. Mais en tout cas, à propos des pensées pour soi-même de Marc Aurèle, cette dimension normative est essentielle. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être du tout considéré comme un journal intime, par exemple. C'est-à-dire que dans un journal intime, normalement, si je comprends bien les choses, vous prenez tout de vous-même.
Oui.
Marc Aurèle ne prend pas tout de lui-même dans les pensées, entre guillemets, pour lui-même. J'ai dit pensées, entre guillemets, parce que le mot pensée n'était pas dans le titre, et d'ailleurs le titre n'était pas de lui. Et d'ailleurs.
Ah bon? Ah non. Expliquez-nous juste ce point, c'est ça.
Que je sache, le titre n'était pas de lui.
Il n'a pas donné de titre.
Non.
Il a dit quoi? Journal, cahier?
Il n'y avait pas de titre.
Il n'y avait pas de titre.
Il y a toute une série de titres qu'on peut rappeler, hein, que Pierre Hadot, dans son livre sur la citadelle intérieure, dénombre, enfin, il en fait la liste. Au départ, le premier titre, c'est État, Eisei Auton Ethika, donc les écrits éthiques destinés à lui-même.
Donc en grec, hein, il faut le préciser,
oui,
alors que c'est un empereur romain.
Par ailleurs, ça n'est pas pour moi-même, même si on en vient à le dire, et on le dit parfois, et on l'a donné comme titre parfois, parce qu'en grec, ça serait Eis Emoton, Emoton. Mmh. Et là, c'est Eis et Auton, donc ça veut dire à soi-même.
Oui.
Donc là, encore une fois, ça, j'en parlais récemment à propos de tous ces pronoms avec Jean Lalot, qui est un grand grammairien. Le fait que le titre soit Eis et Auton, indépendamment des considérations historiques, prouve qu'en gros, ce n'est pas lui qui l'aurait donné, parce que ce serait très très bizarre qu'il ait écrit ça comme ça. Il aurait écrit Eis Emoton. Ça c'est la première chose. Mais, comment dire, dans ses pensées, il ne prend pas tout de lui-même, il ne se laisse pas aller à ses penchés, il ne considère pas tout ce qui lui arrive, mais les pensées interviennent comme un dispositif
d'amélioration, justement, c'est-à-dire de tension normative vers un soi-même qui n'est pas du tout, comment dire, qui est au départ plastique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de ces choses, enfin, plutôt que de parler d'un moi, il est très important de parler de la partie hégémonique de l'âme, dont parle tout le temps
Marc Aurèle. Qu'est-ce que c'est ça?
La partie hégémonique, l'âme matérielle, chez les stoïciens, a 8 parties. Les stoïciens les plus anciens la comparaient à un poulpe. Les 5 sens. La partie relative à la reproduction, les logoi spermaticoi, la partie relative à la voix, qui nous est très utile aujourd'hui dans cette émission, et la partie dominante, qui est, comme j'ai l'habitude de le dire, une sorte de centrale dans l'âme. La métaphore du poulpe est très frappante. Donc en fait, il faut s'occuper de sa partie dominante. Finalement, vous avez parlé hier de la proie Irésis chez Épictète. Et dans un processus, comment dire, que j'appelle de réduction éthique, Épictète en vient à dire, occupe-toi de ta proie Irésis. Même au-delà de ton corps, et pourtant les stoïciens ont thématisé de manière très intéressante le rapport au corps, ce qui compte, on peut me couper la jambe, mais on ne touchera pas à ma proie Irésis. Marc Aurèle, lui, parle beaucoup de la partie dominante de l'âme. Où on traduit parfois la partie directrice. Cette partie directrice de l'âme, elle est plastique. Et c'est pour ça que Marc Aurèle dit souvent qu'il y a plusieurs possibilités d'âme. De qui as-tu l'âme actuellement? Eh bien, c'est en travaillant sur ma partie dominante que je peux influer sur la manière dont je vais être dans cette organisation générale bien pensée qu'est l'ordre du monde.
Alors là, je ne résiste pas à cette question. Marc Aurèle est un empereur romain. La politique, c'est toute sa vie, enfin une immense partie. Et elle est secouée, la politique. Il y a les Parthes qui envahissent les provinces orientales de l'Empire. Ensuite, il y aura les peuples germaniques. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui ne fait que commencer, qui prépare sur plusieurs siècles la chute de Rome à venir. Donc il y a des guerres. Est-ce que la politique est au centre des pensées dites pour moi-même de son journal? C'est-à-dire, fait-elle partie de la partie hégémonique, comme vous venez de le dire, de son âme dont il doit s'occuper? Ou au contraire, et paradoxalement, il parlerait dans ce journal de tout, sauf de la politique?
On ne peut pas dire, je pense, qu'il élabore dans les pensées une philosophie politique. En revanche, il parle de politique. Par exemple, là, j'ai sous les yeux la pensée 55 du livre 7. Chacun doit faire ce qui découle de sa constitution. Or, tout est constitué en vue des êtres de raison. Comme pour toute autre chose, l'inférieur est fait pour le supérieur et les êtres de raison sont faits en vue les uns des autres. Par conséquent, le plus important dans la constitution de l'homme, c'est le lien avec les autres. Tokoinonikon. À un autre endroit, il parle du fait que tout ce qui se présente et doit être pour lui et est pour lui une matière à exercer une excellence logique et une excellence politique. Donc je veux dire, la considération de la politique, elle est dans la considération du koinon, du commun.
Donc elle est là, mais peut-être pas au sens de l'événement singulier, constant, tel moment de la guerre. Enfin, c'est un chef de guerre, quoi. Il faut quand même rappeler, il écrit cela dans des lieux difficiles. Il voyage, il va voir ses troupes. Alors Alain Petit, c'est une question qui concerne éminemment vos centres d'intérêt, puisque vous insistez beaucoup pour dire qu'il y a une pensée du présent, oui, chez Marc Aurèle, qui est très importante. Mais quel présent, alors? Le présent politique, événementiel, singulier? Quel présent?
Le présent, c'est celui qui correspond à Marc Aurèle s'inscrivant dans une pensée du présent très ancienne dans le système, parce qu'elle remonte au troisième des maîtres anciens, c'est-à-dire Chrysippe. Le présent, c'est ce qui est corrélatif d'une action. Donc, je veux dire, ils ne sont pas identifiés comme des événements, ils sont rapportés à une activité. Ou alors à la connexion entre un événement et une activité, c'est-à-dire la manière dont, par exemple, je fais face à la menace des Parthes ou Ou des Germains, exactement, sur le Danube. Donc ce sont des, on peut dire que ce sont des conjonctures dans lesquelles je dois insérer quelque chose qui serait, de ma part, constant. Je ne peux pas être surpris par l'événement. Je dois maîtriser l'événement.
Et donc ce n'est en rien une chronique de politique, une chronique
non.
de ces guerres.
Alors, il n'y en a pas moins. Frédéric insistait sur la koinonia, la communauté, le communautaire, koinonikos en grec, hein, même pour le dieu. Mais moi, je vois affleurer, si vous voulez, à certains moments, des éléments d'une politique que je ramènerai à quatre têtes de chapitre, si vous voulez.
Ben, je vous écoute.
Voilà. Il y aurait la cosmopolitique, la cité de Zeus.
C'est-à-dire le monde entier.
Le monde dans son ensemble.
Sous la gouvernance de Zeus.
Le monde sous la gouvernance de Zeus, la loi de Zeus, qui, à mon avis, se ramène à une théologie politique. L'Empire a peut-être une certaine fondation par l'intermédiaire de Zeus, justement. Alors, il y a aussi quelque chose de plus impliqué. Il y a deux éléments. En particulier, il dit, ça m'a un peu frappé, n'espère pas la République de Platon. Contente-toi de petits progrès. Alors, ça veut dire vraisemblablement qu'il s'enquiert non pas de ses rapports avec les ennemis. La communauté ne se définit pas de manière karschmittienne comme eux et nous. Hein. C'est plutôt, au sein de la communauté, quel rapport ai-je avec ceux que je gouverne ? Et ce qui est très étrange, c'est qu'il y a plusieurs pensées où il dit... qu'est-ce que je peux faire avec eux? Qu'est-ce que je peux faire d'eux? Qu'est-ce que je peux
mais
faire
eux,
pour
ce
eux?
Ce sont les gens qui.
Ce sont ceux qui gouvernent. Ce sont ouais. ceux qui gouvernent. C'est l'empereur pourrait très bien être un tyran. La possibilité d'être tyrannique pour un empereur elle est constante. Il y a des précédents et son propre fils le sera aussi. Bon.
Donc. Je rappelle quand même que la République de Platon, mal nommée République puisque c'est le mot de Cicéron et c'est un mot romain.
Effectivement.
Ça n'est pas du tout. Ce que nous avons l'habitude quand même d'appeler une république avec une dimension démocratique qui va être de plus en plus prégnante dans l'idée de république.
Non.
Et donc Marc Aurèle non plus, c'est-à-dire qu'il n'a aucune nostalgie de la république romaine, morte et bien morte au moment où il est
même empereur. Non, il n'a pas de nostalgie de la république romaine, mais curieusement, il semble vouloir se considérer comme un citoyen.
Il emploie le mot. Hein.
Il emploie le mot. Oui. Lui, il est citoyen plus qu'impérator. Parce qu'il ne veut pas se considérer comme exerçant une puissance sur les autres, alors qu'il le fait, mais comme étant celui qui obéit à une justice qui serait commune. Et c'est là qu'on retrouve la notion de communauté dont parlait Frédéric. Il est membre d'une communauté en tant qu'empereur, ce qui est un énorme paradoxe, ce qui renvoie à la question du pouvoir absolu et de la manière dont il pourrait être limité. Il se pose la question de la limitation de son pouvoir, finalement.
Ah, et quelle est sa réponse?
Ben, sa réponse, c'est qu'il s'en remet à la cité de Zeus. Zeus a imposé une loi à tous, une loi commune, et le commun du monde est plus important que le commun de la cité. Parce que sinon, une cité peut toujours être elle-même, comme disait Platon, justement, dans la République, en train de dériver.
On va continuer, hein, cette conversation me semble être un cœur de la manière dont Marc Aurèle réfléchit. Voici maintenant un extrait qui évoque le problème du présent, qui suggère qu'il faudrait l'épouser d'une manière comme si ça allait se répéter, ce qui anticipe un peu la position de Nietzsche au XIXe siècle. On va continuer à travers cela, mais nous reviendrons à des problèmes antérieurs que nous avons évoqués dans cette émission-là depuis une petite demi-heure. Voici un extrait maintenant du deuxième livre du journal de Marc Aurèle.
Tu vivre 3000 ans et autant de fois 10 000 ans, souviens-toi pourtant que personne ne perd une autre vie que celle qu'il vit et qu'il n'en vit pas d'autre que celle qu'il perd. Donc le plus long et le plus court reviennent au même, car le présent est égal pour tous, est donc égal aussi ce qui périt, et la perte apparaît ainsi comme instantanée, car on ne peut pas perdre ni le passé ni l'avenir. Comment, en effet, pourrait-on vous enlever ce que vous ne possédez pas? Il faut donc se souvenir de deux choses. L'une, que toutes les choses sont éternellement semblables et recommençantes, et qu'il n'importe pas qu'on voit les mêmes choses pendant 100 ou 200 ans ou pendant un temps infini. L'autre compère autant que l'on soit très âgé ou que l'on meure de suite. Le présent est en effet la seule chose dont on peut être privé, puisque c'est la seule qu'on possède et que l'on ne perd pas ce que l'on n'a pas.
Comme vous travaillez directement sur ce problème, je commence par vous, là, Alain Petit, et j'avoue humblement que je ne comprends pas ces phrases. Ça veut dire quoi, le présent est la seule chose dont on peut être privé, et surtout que l'on ne le perd pas puisqu'on ne l'a pas. Ça, c'est difficile quand même, ou alors je n'entends pas.
Le présent est la seule chose dont on peut être privé, parce que c'est, après en parler, la seule chose que l'on vive.
Donc on peut la perdre, pardon, j'ai peut-être mal compris.
Oui,
on peut la perdre. En fait, on la possède.
C'est la seule chose qu'on puisse perdre. C'est la seule
non, pardon, pour mon
c'est la seule qu'on puisse perdre, parce que c'est la seule que l'on vive. Alors, il y a deux idées de présent. C'est ça, c'est là la subtilité. Le présent que l'on peut perdre, c'est celui qui peut être circonscrit. Et chez Marc Aurèle, il y a plusieurs tentatives pour essayer de le circonscrire. Je pense en particulier à l'analogie qu'il établit, qui est très intéressante, entre la mort et l'éternel retour.
Parce que le thème de Nietzsche, qui viendra bien plus tard, est emprunté à Marc Aurèle.
Oui. Il est emprunté aux stoïciens, semble-t-il. Peut-être à Pythagore, mais de manière beaucoup plus... Parce que chez Pythagore, ça passe par des témoignages extrêmement... fugace, si je puis dire, est très peu et bref. Donc c'est plutôt la thématisation stoïcienne qui effectivement revient chez Nietzsche avec les sarcasmes que Nietzsche adresse aux stoïciens.
Parce qu'on a évidemment, même chez les épicuriens d'ailleurs, qui sont si différents, cette idée du présent au sens où c'est ce qui leur fait dire que la mort n'est rien, puisque il n'y aura pas de présent de la mort, donc elle n'est rien.
Alors c'est oui, effectivement il y a un point de connexion, et ce n'est pas le seul, entre les épicuriens et les stoïciens, à cet égard. Parce que Épicure dit, dans la lettre à Ménécée, le mortel de la vie, c'est ce qui donne à la vie son caractère de jouissance possible, sa désirabilité.
Oui.
La mort fixe les cadres du présent. Alors Épicure dit, tu ne dois pas te projeter dans l'infini. Et ce qui est très remarquable, c'est que dans le texte qui vient d'être lu, il est question de l'infini et du fini.
Il est question de l'idée que le présent va revenir quand même.
Alors, le présent revient dans l'éternel retour.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, quelles que soient les versions, bon, je n'entre pas dans le labyrinthe des versions de l'éternel retour, mais si on adopte la version la plus forte, qui est peut-être celle de Marc Aurèle, ça veut dire que tout reviendra à l'identique, les individus et les événements, et l'association entre eux.
Ça, c'est de la théologie, non? C'est ça que vous appelez la théologie?
C'est de la théologie, oui, c'est ça. C'est de la théologie, c'est de la cosmothéologie, comme on dira plus tard, hein. Et c'est aussi très intéressant chez Marc Aurèle. Je pense qu'il y a une religion cosmique chez Marc Aurèle. Il n'y a pas simplement une théologie, il y a aussi une religion.
Alors, Frédéric Ildefonse, c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures de l'éternel retour, en particulier chez Nietzsche. Parfois, il est plus facile de comprendre qu'il faut, tel un exercice spirituel, embrasser le présent comme s'il devait toujours revenir. C'est la version que je comprends la mieux. Mais l'idée d'un véritable retour théologiquement fondé, Alain Petit semble dire que c'est cela qu'il y a chez Marc Aurèle. Et c'est peut-être ce qui fait que, si j'ose dire, ce n'est pas un Nietzschéen, c'est un stoïcien. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Bon, pour l'éternel retour, c'est vraiment Alain qui sait. Pour le détail, mais simplement, c'est vrai que l'amor fati stoïcien, l'éternel retour, Nietzsche, hein. Enfin bref, les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a dans les deux cas un amor fati, un amour du destin. Évidemment, l'ordre du monde n'est pas tout à fait le même chez les stoïciens et chez Nietzsche, où on a plutôt Deleuze à parler, n'est-ce pas, de chaos mos. Mais bon, pour l'affaire de l'éternel retour, et après je voudrais dire quelque chose du présent.
Oui, je vous en prie, bien sûr.
Il y a une interprétation, enfin il y a quelque chose qu'Alain Petit a écrit, donc maintenant je vais le citer. C'est-à-dire que ce qui justifie qui est Éternel Retour. Je vais réduire ça au plus serré de ce que j'ai compris, de ce qu'Alain Petit a déjà écrit sur l'Éternel Retour. C'est que c'est, comment dire, en un sens, la détermination même de l'événement qui oblige à sa répétition. Donc c'est absolument pas une répétition qui serait une manière de rejouer quelque chose d'inachevé, mais ce serait au contraire, et c'est l'idée, je crois, qu'Alain Petit défend sur l'Éternel Retour, que c'est l'intégralité de la détermination qui exige sa répétition. Donc c'est une pensée...
Et comme tout est déterminé par l'ordre du monde, ça se répète. Ça
voilà.
Va se répéter.
Et d'accord. Alors ça rejoint tout à fait ce que vous évoquiez hier ou avant-hier, à savoir la conflagration. C'est-à-dire que le monde, de manière régulière, est détruit, est périodiquement détruit et renaît.
Et il n'y aura pas de nouveau. Il n'y aura pas d'invention.
Là, c'est encore une fois Alain Petit qu'il faut interviewer sur cette question. C'est-à-dire qu'il y a deux versions. Tout revient absolument à l'identique et nous serons à un certain moment, à nouveau, exactement dans cette situation, en faisant les mêmes gestes, en portant les mêmes vêtements, en respirant la même qualité d'air. Soit, ça se fera à quelques distinctions près.
Donc je laisse juste Alain Petit vous m'y inciter, répondre et préciser les choses. Et ensuite, j'ai bien entendu, Frédéric Hildefonse, que vous vouliez parler du présent et je m'en réjouis. Alain Petit.
Oui, effectivement, c'est l'idée que tout est déterminé complètement. C'est pas simplement. Le destin est un enchaînement de causes. C'est ce que dit la fin de 5.2 qu'on a lu. Mais en même temps, le destin, c'est-à-dire le Dieu, puisque ce sont des synonymes, ou Zeus, agit de telle façon qu'il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer ses plans. Zeus étant strictement rationnel, le logos cosmique, refait à l'identique ce qu'il a fait après chaque conflagration, parce que il ne pouvait pas faire mieux qu'il n'a fait. Donc, dans l'idée d'éternel retour, il y a à la fois l'idée de détermination et il y a l'idée de perfection.
Donc un peu l'idée, alors là pareil, puisqu'on parle du point de vue aussi où on connaît un peu la philosophie moderne, on se dit tiens, c'est un précurseur de Leibniz qui a été tant caricaturé par Voltaire sous le personnage de Pangloss, nous en avons parlé la semaine de Noël, et vous diriez, comme disent les Leibniziens, que Pangloss, qui dit que tout est parfait dans le monde, c'est une caricature de Leibniz. Est-ce aussi une caricature de Marc Aurèle? Marc Aurèle, c'est un peu plus complexe, ou bien non? Oui, finalement, Pangloss, c'est Marc Aurèle.
Peut-être que Pangloss, c'est une caricature de tout. Déjà, j'en ai toujours eu le sentiment, malgré le sel de l'ironie de Voltaire. Mais oui, je vois. Moi, j'avais une fois. Il m'était passé par la tête, si vous voulez, l'idée que l'éternel retour des stoïciens, qu'on trouve en effet chez Marc Aurèle, vraisemblablement dans la version la plus radicale, c'est-à-dire sans changement, c'était l'équivalent du principe du meilleur sans la pluralité des mondes. C'est-à-dire que l'éternel retour joue le même rôle que la pluralité des mondes chez Leibniz. Ça permet de montrer, mais c'est plus difficile si on fait pas intervenir plusieurs mondes. Hein.
Bon, en tout cas, on attend avec impatience votre livre. Hein, là-dessus. Il y a beaucoup à dire. Alors sur le présent, Frédéric Hildefonse, que vouliez-vous ajouter?
Alors ça me permet de développer un peu ma réponse à une question que vous m'aviez posée pendant la première émission,
c'est-à-dire
le rapport des stoïciens à la grammaire. Et le fait que dans leur lieu logique, on trouve des élaborations grammaticales qu'on reverra surgir, modifiées, réappropriées chez les grammairiens. Mais en tout cas, ils ont fait un repérage énorme des parties du discours, de la théorie des prédicats, du passif et de l'actif, du personnel de l'impersonnel, des propositions circonstancielles et de la théorie des temps. C'est-à-dire qu'il y a une fameuse colite plus tardive de quelqu'un qu'on connaît mal qui s'appelle Stéphanos et qui expose une théorie qu'on pense stoïcienne des temps. Donc les temps tels qu'on les apprend à l'école, comme toutes ces choses qu'on apprend à l'école en grammaire, visiblement ça a été formalisé pour la première fois par les stoïciens. Et deux points, nous avons l'habitude, nous, dans la langue que nous apprenons, si nous apprenons le français, de distinguer entre présent, passé, futur. Mais dans d'autres langues, le grec en particulier, il y a ce qu'on appelle non seulement cette dimension des trois, non seulement ces trois dimensions du temps, mais il y a une dimension qu'on appelle aspectuelle du temps. Qu'est-ce que c'est l'aspect ? C'est le fait de quantifier l'action par rapport à son degré d'accomplissement. Je peux avoir commencé quelque chose, mais ne pas l'avoir fini. Et je peux chiffrer tout cela. Et les anciens avaient, en grec, donc, une dimension aspectuelle du temps. Le présent doit se comprendre également par rapport à cette aspectualité. C'est-à-dire que le présent, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, ce que je suis en train de faire, je peux l'avoir plus ou moins accompli, etc. La circonscription du présent, en fait, c'est l'idée de l'actualité d'une action. C'est-à-dire, du présent, et Alain Petit l'a dit, il faut remonter à l'action qu'il chiffre en quelque sorte. Et donc, on retrouve cette théorie stoïcienne des temps et cette pensée de l'actualité qu'ils ont. Parce que le monde est totasimul. Tout est là en même temps. C'est un présent intégral, dans un indicatif complet.
Vous êtes d'accord, Alain Petit, vous acquiescez. C'est important, ça.
Ah oui, c'est un point capital. Cette idée de présent cosmique. Parce que pour le Dieu, tout est présent dans un cycle. Il n'y a ni futur ni passé. Le futur et le passé s'imposent à nous du fait de la finitude qui est celle des parties du monde. Même si en tant que partie, leur finitude est compensée par le fait qu'elle soit partie. Mais pour nous qu'il y a un futur et un passé, ça qualifie notre caractère partial ou partiel.
Alors je voudrais maintenant vous poser une question qui m'a été soufflée, si j'ose dire. Par Monsieur Gourina qu'on a reçu hier sur Épictète, Jean-Baptiste Gourina, qui m'a signalé l'existence notamment d'un article qu'il nous a transmis avec Philosophie, un article dans un journal belge qui s'appelle Le Vif et qui a été publié en octobre 2025. Dans cet article, il est expliqué la séduction du stoïcisme, et plus précisément évidemment de Marc Aurèle, dans la classe politique contemporaine. Alors c'est vrai par exemple, semble-t-il, de quelqu'un qui est plutôt démocrate aux États-Unis, l'écrivain marketeur américain Ryan Holiday. C'est vrai aussi d'un psychologue qui s'appelle Jordan Peterson et qui est beaucoup plus dans la vague néoconservatrice américaine. Quant à la Belgique, apparemment le premier ministre belge depuis le 3 février qui s'appelle Bart De Wever et adopte un modèle qu'il dit stoïque. Elle lui fait partie, c'est quand même un nationalisme de droite. Quant au mouvement réformateur, c'est le nom d'un mouvement en vérité libéral-conservateur, et bien Charles Michel, l'ancien Premier ministre, qui a été ensuite président du Conseil européen, revendique aussi la stoïcité, et j'ai envie de dire plus que la pensée stoïcienne. Il y a là l'idée qu'il faut se concentrer, d'abord être très moral, contrairement à l'immoralité légendaire des politiques, qu'il faut prendre sur soi un idéal de maîtrise. Et certains disent, c'est une critique, peut-être même un peu sur un mode viriliste. Est-ce que tout ça trahit complètement Marc Aurèle ? Ou est-ce qu'on a bien raison aujourd'hui d'aller chercher Marc Aurèle en politique ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'allons-nous chercher chez Marc Aurèle en politique ?
Oui, on a raison d'aller le chercher en ce moment. On a besoin de lui en ce moment ?
C'est-à-dire, on pourrait avoir besoin de lui dès l'instant que la question de la puissance apparaît au premier plan. Parce que il est celui qui a à limiter sa propre puissance alors que les institutions de l'Empire vont dans le sens contraire. C'est-à-dire que les institutions de l'Empire favorisent la tyrannie. La tyrannie, ça veut dire le pouvoir personnel, arbitraire, sans limite. Sauf celle que le titulaire de la puissance s'imposerait à lui-même. Et donc, le problème que se pose Marc Aurèle, manifestement, c'est de ne pas lui-même céder à la propension tyrannique.
Donc, attention, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut cette maîtrise des affects, ce contrôle de soi, mais pas avec une tentation... trop d'amour du pouvoir, pas trop d'insatiabilité du pouvoir. Et peut-être que ceux qui utilisent aujourd'hui Marc Aurèle le font en oubliant cette auto-limitation permanente. Ils le font parfois plus dans une quête de pouvoir. Il faut faire attention à ce point, Frédéric Ildefonse.
Oui, mais s'ils le lisent, ils ne peuvent pas être dans l'insatiabilité du pouvoir. C'est-à-dire que lui, il a... Enfin, ce qu'il développe, c'est il y a quand même beaucoup d'humilité dans la position, beaucoup de sobriété. On rejoint un peu cette affaire de rhétorique qu'on pourrait apprendre si on voulait apprendre à être muet. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sobriété, beaucoup de cette affaire de du koinonikon, du commun. C'est-à-dire, Marc Aurèle, il montre bien ce que les stoïciens appellent l'idia fusis, la nature propre. Il y a une nature propre. Et les stoïciens ont élaboré une pensée de l'individu. Mais cette pensée n'est absolument pas individualiste. C'est-à-dire que ça c'est déjà une idée qu'on trouve dans les lois de Platon, au livre 10, où l'étranger d'Athènes dit « Mais pauvre misérable, tu ignores que tout ce que tu vis, c'est en vue de l'univers. » Donc, il y a l'idia fusis, mais l'idia fusis ne s'entend que dans la koiné fusis, dans la nature commune. Et on rejoint le texte que je voulais tout de même commenter un tout petit peu là, c'est-à-dire sur l'idée de ce qui arrive et les pierres qui s'encastrent parfaitement.
Oui, c'est un extrait que vous nous avez signalé.
Voilà.
Expliquez-nous, c'est très intéressant.
C'est-à-dire que là, c'est aussi assez prodigieux parce qu'il fait un jeu de mots en fait. Hein. Mais Marc Aurèle fait des jeux de mots. Par exemple, il passe de méros, partie, à mélos, membre, pour bien montrer que l'affaire, c'est pas la partie, mais que l'affaire, c'est d'être un membre d'un organisme vivant. Parce que dans membre, il y a plus que dans partie, où c'est plus statique, c'est moins dynamique. Et là, c'est le même mot qui dit arriver pour un événement, et qui dit s'encastrer pour des pierres dans un bâtiment. S'encastrer parfaitement. Et donc, d'ailleurs, le verbe, c'est sumbaino. Et quand on parle d'accident chez Aristote, d'accident d'une substance, c'est le même verbe aussi. C'est ce qui est arrivé, sumbebekos. Toujours est-il qu'il y a des natures propres, idia fusis, et il y a une pensée de l'individu qui est caractérisée par une qualité propre, ce qui est signifié par un nom en grammaire, mais il faut se tenir dans la nature commune et cette métaphore de l'encastrement, elle va là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre les natures propres et les natures communes. Alors les politiques peuvent bien y aller.
Alors évidemment, ça pose le problème de la séduction de Marc Aurèle aujourd'hui qui existe et sans doute le fait que c'était un homme de pouvoir. Est-il quelque chose de présent dans la séduction? Et c'est peut-être aussi le point d'un contresens, puisque vous venez tous les deux de m'expliquer qu'il y a aussi une pensée de l'impouvoir, du fait du non-pouvoir chez Marc Aurèle. Alors, dans un extrait des pensées au livre 6, Alain Petit, il écrit explicitement « Fais attention à ne pas devenir un César, à ne pas te laisser imprégner, car c'est ce qui arrive », et il ajoute « reste simple, bon, pur, grave, naturel, ami de la justice, pieux, bienveillant, amical, résolu à agir comme il convient ». Et il cite Antonin le Pieux, alors peut-être vous me direz ce que ça veut dire le Pieux pour un Romain, qui l'a précédé sur le trône. Ça, c'est la vraie leçon que les politiques et les gens qui réfléchissent en politique devraient chercher chez Marc Aurèle.
Oui, c'est peut-être pas celle qui voudrait en retirer, parce qu'en fait, Marc Aurèle, déjà dans sa vie, on sait qu'il n'avait pas une forte envie de devenir empereur. Il a été fortement incité par Adrien, puis par Antonin, à le devenir pour être leur successeur adoptif. Mais enfin, son premier désir, c'était d'avoir ce qu'on a appelé un loisir studieux, l'otium dont parlaient les Romains, hein, donc la philosophie et les arts. Donc devenant empereur, il devait trouver dans la philosophie des ressources, mais aussi dans la religion, des ressources pour limiter le pouvoir qu'il ne voulait pas exercer comme un tyran. Je me suis demandé ce que voulait dire le verbe grec, c'est se césariser. Certaines traductions le donnent comme ça. Bon, Breillet a préféré, parce qu'il était puriste, traduire par ne pas devenir un César. Ça veut dire ne pas devenir un tyran. Je pense que ce César-là, c'est pas le titre de César qu'il a lui-même. Hein.
Oui.
C'est Jules César qui manifestement est identifié comme un tyran de sa part. Donc de ce point de vue-là, il y a de la part d'un empereur la critique d'une certaine tradition impériale. C'est très remarquable. Tu ne vas pas chercher du côté du pouvoir que tu pourrais exercer absolument. Tu dois t'en défier et tu as des ressources pour le faire. En effet, la piété, c'est ce que tu dois aux dieux. C'est ce que tu dois aux dieux.
Et qu'est-ce qu'ils nous demandent, les
dieux? Ils nous demandent...
Les dieux pour un Romain.
Alors, ils nous demandent de faire attention au fait qu'ils pourraient contrecarrer nos entreprises. La piété, c'est...
La limite, quoi. C'est une
limite, parce que je n'ai pas toute puissance sur les événements. La piété, ça veut dire que je n'ai pas toute puissance. Si je vais à la guerre, si je n'ai pas respecté ce que je dois aux dieux, toutes les pratiques rituelles que je leur dois, et lui était particulièrement adonné à ces pratiques rituelles, comme Antonin, le pieux. Parce que c'est ce que veut dire piété.
Peut-être que c'est malgré tout cela que vont chercher certains penseurs du politique et certains politiques eux-mêmes, dans l'idée d'une morale, d'une sobriété de la politique. Peut-être non, je laisse les auditeurs y réfléchir. Vous avez le dernier mot, Frédéric Ildefonse, parce que bien évidemment, nous sommes contraints par le temps, nous avons dû oublier plein de choses. Peut-être saisissez un point qui est important et que vous voudriez dire avant que ça s'arrête.
Eh bien, vous mentionniez hier, je crois que c'est Jean-Baptiste Gourina qui disait que Zeus nous avait délégué une partie de son, une partie de lui-même, et que pas même Zeus ne pouvait nous vaincre. Et je pense que là, il y a quelque chose de très très important. Nous avons en nous-mêmes une part divine dont nous devons nous occuper. Et Marc Aurèle, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de ce dont Épictète parle un peu moins, mais parle pourtant, à savoir son daimon, qui n'est pas le démon de Socrate, mais qui est une part divine en nous-mêmes que nous devons cultiver. Il y a une référence à Platon sur la question, parce que Platon, déjà dans le Timée, disait que le Dieu nous avait donné, comme daimon, notre intellect. Donc là, il y a toutes sortes de nuances à faire dans certaines pensées de Marc Aurèle, où il parle de l'intellect, où il parle de la partie dominante de l'âme, et où il parle du daimon aussi, d'un daimon qui est intérieur, comme chez Épictète, et auquel nous devons rendre un culte. Donc il y a en nous-mêmes une part divine, et nous sommes responsables de cette part divine.
And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful.
On parlait du présent chez Marc Aurèle. Voici donc une chanson intitulée Once in a Lifetime. Ce sont les Talking Heads en 1980. Merci beaucoup Frédéric Ildefonse, Alain Petit. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Juste avant de lancer la chronique, je voudrais rendre hommage à Jacques Serrano, philosophe qui est mort il y a quelques jours à Marseille. C'est lui qui avait été le concepteur de la semaine de la pop philosophie qu'il a dirigée durant 17 éditions. Il va nous manquer, il aimait le dialogue intellectuel qu'il faisait vivre et une cérémonie d'hommage a lieu aujourd'hui même à Marseille. Voici à présent la chronique du jeudi qui s'intitule Le fil philo. Vous savez qu'en ce moment c'est Laurence de Villers qui tient cette chronique. Aujourd'hui, elle nous parle de Camus. Camus, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est le fil philo.
Le fil philo.
Pour tous ceux qui sont tentés de baisser les bras, qui trouvent que la vie n'a pas de sens et que le monde est absurde, Albert Camus, philosophe, romancier, journaliste et dramaturge, l'un des plus lus du XXe siècle, apporte un remède lucide et malgré tout joyeux. Parfois, souvent les dimanches soirs ou les lundis matins, vous vous demandez quel sens a votre vie, se lever, manger, dormir, travailler et recommencer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde à faire tout ce que vous faites, à vous démener, à vous activer? Pour qui? Pourquoi? Les choses vous paraissent sans grand intérêt. Le monde, la réalité, le quotidien, le travail, tout vous est comme étranger. C'est exactement la définition qu'Albert Camus donne de l'absurde. Quand, dit-il, l'hostilité primitive du monde remonte vers vous. Pour une seconde, vous ne le comprenez plus. Et vous vous demandez, à quoi bon ? Ce n'est pas le début d'une dépression, c'est la preuve d'une grande lucidité. Le monde est en effet totalement indifférent à ce que vous êtes, à vos désirs, qu'il peut tout aussi bien exaucer que piétiner. Le monde est ce qu'il est, la réalité est ce qu'elle est, ni plus, ni moins. Ce divorce entre l'homme et sa vie, l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurde, conclut Camus dans son ouvrage « Le mythe de Sisyphe ». Et pourtant, contrairement à tout ce que l'on peut dire, Camus est un philosophe de l'espoir. Mais pas l'espoir qui consisterait à rêver d'une autre vie, pas l'espoir qui se bercerait d'illusions. Non, un espoir lucide, né du sentiment même de l'absurdité de l'existence, mais qui n'interdit pas pour autant d'être heureux. Peut-être, sans doute même, que la vie est cruelle, injuste et ingrate. Mais on ne peut pas vivre contre la vie même. Il faut l'embrasser dans chacun des moments qu'elle offre, dans ce qu'elle donne, comme dans ce qu'elle refuse ou reprend. Il faut avoir le réalisme heureux, regarder la vie dans les yeux, sans rien esquiver ni se cacher, et trouver son bonheur quand même. Camus le dit avec force. « J'aime cette vie avec abandon et veux en parler avec liberté. » Car, ajoute-t-il, il n'y a pas de honte à être heureux. Il n'y a pas de honte s'il n'y a ni illusion, ni mensonge. Tel est l'espoir lucide. Alors le bonheur, pourtant partout et tout le temps menacé, se présentera à vous comme une promesse que la vie vous a faite. Oui, le monde est indifférent, il ne vous entend pas, il ne vous délivre aucun message. Mais rien ne vous empêche toutefois de proclamer avec Camus que vous avez toujours eu l'impression de vivre en haute mer, menacé au cœur d'un bonheur royal.
Merci Laurence de Villers. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Auge Auduc. Elle a été préparée en particulier par Axel Dubois et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Anna Feulpin, Carla Michel, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.